Le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Après le passage de la tempête Eunice, le nord de la France pense ses plaies, de gros dégâts, notamment à Abbeville dans la Somme. En Ukraine, de fortes tensions dans l'Est et un entretien de la dernière chance entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ce sera en fin de matinée. Interpellé sur le rattachement du département Loire-Atlantique à la région Bretagne, une association va déployer un drapeau gigantesque à Nantes. Nantes qui s'est payé le Paris Saint-Germain hier soir, c'est l'agit de football. 3-1, nous reviendrons sur cette défaite des Parisiens.
Les invités de cette matinale à 7h50 avec vous, Karine Bécard.
Une novice de la politique, 5 ans après son entrée à l'Assemblée. Quel bilan en a-t-elle tiré? Rendez-vous avec la députée de La République En Marche, Alice Toureau, effectivement à 7h50.
Et à 8h20, cette question, faut-il s'inquiéter, comme le fait l'Académie française, de l'envahissante anglicisation du français? On ouvre le débat avec Antoine Compagnon, écrivain, universitaire et élu cette semaine à l'Académie française, et avec la linguiste Julie Neveu.
France Inter.
Prudence et vigilance dans 4 départements du nord du pays. Ça va encore souffler très fort, surtout en fin de journée, Laurence.
La Somme, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais et le Nord sont placés en vigilance orange à partir de 20h et jusqu'à 1h du matin la nuit prochaine. Une tempête qui sera moins forte que Nice. Cette tempête, Nice, a fait au moins 16 morts dans toute l'Europe du Nord. Elle a causé déjà de nombreux dégâts. 1000 km de voies ferrées endommagées en Allemagne. 155 000 foyers qui étaient encore privés de courant hier soir en Grande-Bretagne. En France, 550 agents d'Enedis sont mobilisés pour réparer le réseau électrique particulièrement touché dans le Pas-de-Calais. Des renforts d'autres régions sont attendus dans la journée. Rétablir l'électricité est une chose, il y a aussi d'énormes dégâts qu'il faut réparer. L'illustration dans la Somme à Abbeville, où le toit de la mairie a été en partie arraché. Reportage de Mélanie Kuzelevitch de France Bleu Picardie.
Derrière la mairie, la grande échelle des pompiers s'active. Première étape pour les sapeurs-pompiers et les agents municipaux montés sur le toit pour voir l'ampleur des dégâts. Le capitaine Kevin Muguet est le chef de groupe sur l'intervention.
On a environ 50 mètres carrés de toiture qui s'est envolée avec le vent, retenue par une ligne de vie en partie haute. On a encore une bonne cinquantaine de mètres carrés qui s'est enroulée, qui reste maintenue en toiture.
Les pompiers sont ensuite relayés par les IMP, les spécialistes des interventions en milieu périlleux, leur mission.
Ils vont venir pour fixer des lignes de sécurité pour les couvreurs et enlever la partie de toiture en zinc qui est encore enroulée et arrachée.
Mais en attendant, il faut sécuriser la zone et éviter que la pluie ne rentre à l'intérieur de la mairie, explique Pascal Druel, le directeur général des services de la ville.
On fera des opérations de bâchage de la toiture en attendant qu'un couvreur vienne la semaine prochaine. Il y en a pour au moins une semaine, voire 15 jours.
Même opération à l'école Jean Zé, au sud de la ville, où les dégâts sont beaucoup moins importants. 10 mètres carrés de toiture se sont envolés, ils sont bâchés et les travaux doivent commencer demain.
Mélanie Kuzelevitch de France Bleu Picardie. Et depuis quelques années, les catastrophes naturelles se multiplient, elles s'aggravent, elles coûtent de plus en plus cher aux assurances. Voilà que quelques jours après le passage de Nice, la CPR, l'organe de contrôle des banques et de l'assurance, publie un rapport sur les risques climatiques. Et l'autorité tire la sonnette d'alarme. Elle veut que les assureurs mettent le changement climatique au centre de leur stratégie. Explication de Kathleen Comte.
Pour faire bouger les choses, la CPR propose de frapper là où ça fait mal, le portefeuille. Pour l'autorité de contrôle, les risques climatiques doivent devenir un vrai critère de performance pour les patrons des assurances. Une partie de leur salaire pourrait donc être indexée sur des résultats dans ce domaine. Pour Lucie Pinson, fondatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance, dédiée aux questions de finances et de climat, ces mesures ne vont pas assez loin.
C'est un bon point. Maintenant, il faut quand même avoir conscience que ça va rester une petite part de leur rémunération. Il s'agit de changer les règles du jeu pour motiver les dirigeants du secteur de l'assurance à prendre des décisions en fonction de l'atteinte d'objectifs climatiques ou de durabilité. Inciter, c'est bien, mais il va falloir contraindre pour interdire le financement à certaines industries qui nous mènent tout droit dans le mur.
Car pour l'heure, les assureurs investissent dans différents secteurs, y compris des activités qui accélèrent le réchauffement climatique.
Aujourd'hui, on voit en effet une incohérence puisqu'on a des assureurs qui continuent d'utiliser utiliser l'argent qu'ils récoltent à travers les primes d'assurance pour les investir dans des secteurs industriels qui aggravent la situation climatique.
En 2021, les catastrophes naturelles ont coûté près de 250 milliards d'euros, soit le quatrième niveau le plus haut de notre histoire.
Kathleen Comte.
Tout faire pour éviter une invasion russe de l'Ukraine.
À 11h, coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, une nouvelle fois. Et les deux hommes vont se parler donc en fin de matinée, alors que les tensions sont de plus en plus fortes sur la ligne de front dans l'est du pays. Selon Washington, la Russie est prête à intervenir à tout moment. 150 000 soldats russes sont désormais massés aux frontières orientales ukrainiennes et on déplore sur le terrain les premières victimes. À Kiev, en Ukraine, la correspondance de notre envoyé spécial Eric Bigala.
L'armée ukrainienne a annoncé hier le décès de deux de ses hommes dans un bombardement sur la ligne de front entre séparatistes russes du Donbass et armée de Kiev. En tout, l'état-major ukrainien mentionne plus d'une centaine de tirs d'armes lourdes qui auraient touché le territoire contrôlé par son armée. Les observateurs de l'OSCE mentionnent, eux, près de 1500 explosions dans la journée sur la ligne de front, sans pouvoir en déterminer l'origine, presque deux fois plus que la veille. Les deux camps fourbissent leurs armes. L'Ukraine a reçu hier des fusils, des mitrailleuses en provenance du Canada. Côté russe, dans les dernières 24 heures, une cinquantaine d'hélicoptères ou de chasseurs d'attaque ont été repérés, stationnant en Biélorussie à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Quant aux Occidentaux, ils évacuent. France et Allemagne ont recommandé à leurs nationaux de quitter le pays. Le bureau de l'OTAN présent à Kiev s'est redéployé à Lviv, près de la frontière polonaise, là où les ambassades américaines, britanniques ou canadiennes se sont déjà repliées. Kiev, Éric Biegala, France Inter.
Hier soir, le président ukrainien Zelensky a dit à son homologue français Emmanuel Macron qu'il ne riposterait pas aux provocations russes dans l'est de l'Ukraine. Il se dit toujours prêt au dialogue avec Moscou. La politique en France et ses ralliements socialistes à Emmanuel Macron. Marisol Touraine annonce dans un entretien aux Parisiens qu'elle va soutenir Emmanuel Macron à la présidentielle car, dit-elle, il représente le vote utile et responsable. Et dans le journal du dimanche, l'ancienne garde des Sceaux de Lionel Jospin, Elisabeth Guigou, soutient et travaille déjà avec l'équipe de campagne du probable futur candidat. Une balle perdue, dramatique accident de chasse hier dans le Cantal. Une jeune chasseuse de 17 ans seulement a tué lors d'une battue au sanglier une randonneuse de 25 ans. Les faits se sont produits près d'Aurillac. Une enquête est en cours et sur Twitter, Bérangère Abba, la secrétaire d'État à la biodiversité, dit en substance que des décisions seront prises afin qu'un tel drame ne se reproduise plus.
1400 mètres carrés, un immense drapeau breton sera déployé à Nantes aujourd'hui.
Pour réclamer un vote des électeurs sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. C'est une action de l'association à la Bretonne. Alors comme ce drapeau est aussi grand qu'une piscine olympique, il est bien trop lourd. 300 kilos pour être accroché. Il sera donc déployé devant le château des Ducs de Bretagne. Un drapeau et une lettre ouverte publiée également ce dimanche pour faire sortir du bois les candidats à la présidentielle sur le sujet qui ne date pas d'hier. Il dure depuis plus d'un demi-siècle et il n'est toujours pas tranché, Faustine Calmel.
Nantes est séparée de la Bretagne depuis 1941 et dès le début, des voix s'élèvent contre ce partage.
Le débat, il a commencé au moment de la Première Guerre mondiale.
Dominique Lepage, historien.
Ils ont commencé à vouloir faire des régions économiques. Il y avait une controverse entre ceux qui voulaient la Bretagne déjà historique et puis d'autres qui voulaient créer une région autour de Nantes. Au début, ceux qui soutenaient la Bretagne à 5 départements, c'était quand même des milieux aristocratiques, conservateurs. Après la Seconde Guerre mondiale, ça devient un mouvement plus large sur le plan social.
En 1976, première grosse manifestation, 5000 personnes dans les rues de Nantes, puis d'autres rassemblements en 1980, 2003, 2014, quand la France passe de 22 à 13 régions. Alors pour en finir avec ce débat, il faut un vote des habitants de Loire-Atlantique, défend Christophe Prugne, président de l'association à la Bretonne.
Il n'y a pas eu de concertation. C'était une décision qui a été prise de façon arbitraire depuis Paris. Quand on prend une décision arbitraire, elle est toujours contestée ou contestable. Donc c'est pour ça que ce débat dure. Tant qu'il ne sera pas tranché de façon démocratique, de toute façon, il restera. Donc à un moment donné, il faut le solder.
Par un référendum que 200 élus et un millier d'associations réclament également, ils ont envoyé un courrier en fin de semaine aux candidats à l'élection présidentielle.
Faustine Calmel, à Nantes ce matin, il sera aussi question de football. Car le trio de stars Messi, Neymar, Mbappé n'aura pas suffi. Le Paris Saint-Germain a coulé à Nantes 3-1 après une première période cauchemardesque. C'est sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1. Paris naufragé et très agacé par l'arbitrage, Fanny Lechevestrier.
Drôle d'ambiance, effectivement, hier soir au coup de sifflet final, alors que la Beaujoire basculait dans l'euphorie, les joueurs du PSG se précipitaient vers Mickaël Le Sage, l'arbitre du match, avec un Marco Verratti remonté comme une pendule.
C'est pas possible, on dit toujours il faut respecter, c'est le premier qui te parle mal, c'est ça que moi je comprends pas, siffler en faute ou siffler pas en faute, c'est pas grave, mais ce sont des principes.
Un sentiment d'injustice partagé par le directeur sportif Leonardo, après les 6 cartons jaunes reçus par ses joueurs, mais surtout des fautes nantaises non sanctionnés selon lui.
Il y a tellement de fautes sur notre joueur. C'est Neymar, c'est Mbappé, hein, je ne siffle pas. C'est Messi, je ne siffle pas. Et c'est Paris Saint-Germain, je ne siffle pas. Après, l'arbitre, il ne veut même pas parler. C'est moi, je sais tout, ça va. On demande un peu de respect.
Après, si le PSG a perdu, ce n'est pas le fait de l'arbitre. Paris a eu pas moins de 10 occasions nettes, dont un pénalty très mal tiré par Neymar. Neymar, Messi, Mbappé, le trio censé être magique, était d'ailleurs aligné hier soir pour la 9e fois de la saison, avec un résultat qui interpelle. Les 3 défaites concédées par le PSG, c'était à chaque fois avec ses 3 stars sur le terrain. Alors plus que l'arbitrage, voilà le vrai problème à régler pour Paris.
Fanny Lechevestrier.
C'était le journal de Laurence Thomas, Le Temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski, la journée s'annonce maussade.
Exactement. En fait, si l'on accepte les régions allant des Pyrénées aux Alpes et du pourtour méditerranéen où le soleil sera quand même assez durable, sur le reste du pays, on sera loin du beau fixe avec le maintien, une bonne partie de la journée d'un ciel maussade, agité par un vent vers 60 km à l'heure. Et puis, en soirée, une veine de vent fort va toucher le nord de la Seine avec des rafales de l'ordre de 110 km à l'heure sur la Seine-Maritime, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais, placé en vigilance orange. À noter que cet épisode venteux sera tout de même d'une durée plus courte et d'une intensité moindre que celui qui a touché vendredi lors du passage de la tempête Eunice.
Jean-Michel Golinski, Météo France.